Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6. Nous allons lire les versets 1 à 8. Apocalypse, chapitre 6, les versets 1 à 8. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux ou rouge selon les versions. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrait le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre ou pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Nous avons vu déjà, et nous avons surtout dit au début de notre étude de ce livre de l'Apocalypse, que ce livre est entre autres un livre historique. C'est-à-dire que les chrétiens du premier siècle devaient le comprendre et être encouragés par son message. Nous avons dit aussi que ce livre est divisé en sept parties, sept descriptions qui vont de la mort, résurrection et ascension du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son retour dans la gloire à la fin des temps. Et nous sommes donc dans la deuxième, nous avons vu la première qui couvrait les chapitres 1 à 3 et la seconde commence au chapitre 4 où Jean est entré au ciel et il a vu le trône, il a vu celui qui est assis sur le trône et il a aussi vu que seul l'agneau, le Seigneur Jésus-Christ, était digne de prendre le livre du dessein de Dieu, de la volonté de Dieu pour l'histoire. Et d'en ouvrir les sceaux. Et il reçoit l'adoration de l'Église, des anges, et ensuite de toute la création. Et donc ici, maintenant au chapitre 6, nous voyons au début de ce chapitre le Seigneur Jésus qui ouvre les quatre premiers sceaux. Et nous voyons les tribulations qui sont déversées sur le monde. Mais nous allons le voir. Cette vision nous montre aussi que tout cela n'est pas un accident. Tout ce qui arrive n'est pas par hasard. Au contraire, tout cela fait partie du plan de Dieu et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui, en ouvrant les sceaux, va diriger ce plan dans sa souveraineté afin que tout s'exécute selon le dessein parfait de Dieu. Un commentateur dit ceci, ces versets nous montrent que Christ, premier mot sur la feuille, Christ règne sur ce monde, même si tout semble chaotique et que rien, même la souffrance, n'arrive par hasard. Christ règne. Les quatre cavaliers, et nous allons les voir en détail, nous apportent des malheurs, nous apportent la mort, mais ils n'apportent pas le désespoir à ceux qui se confient dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu Et nous avons déjà vu au chapitre 4 et 5 que les visions du trône de Dieu et de l'agneau sont au cœur du livre de l'Apocalypse. Ils décrivent la souveraineté de Dieu, la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ sur l'histoire. Et ici, donc, au chapitre 6, le Seigneur Jésus-Christ est trouvé digne d'ouvrir ses sceaux. Nous voyons quatre cavaliers qui partent à son commandement. Et cela souligne que le Seigneur Jésus-Christ ne règne pas seulement sur le cœur de ceux qui croient en lui, mais il règne aussi sur toute l'histoire et sur les forces de mal qui sont relâchées sur la terre. Nous avons déjà vu au chapitre 1er que le Seigneur Jésus-Christ est réellement le prince des rois de la terre. Et c'est pourquoi ceux qui croient en lui, ceux qui lui appartiennent, peuvent faire face aux difficultés, aux tribulations, aux épreuves, avec cette assurance que tout cela n'arrive pas par hasard, que le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle de toute l'histoire. Et cela a été un encouragement pour les chrétiens du premier siècle, et cela est un encouragement pour le peuple de Dieu tout au long de l'histoire. Tout d'abord, un premier point, une introduction sur ces quatre cavaliers, deuxième mot sur la feuille. Une introduction, comme vous pouvez l'imaginer, il y a toutes sortes d'interprétations concernant les cavaliers, mais c'est surtout l'Ancien Testament qui nous aide à comprendre. En Zacharie, par exemple, Zacharie chapitre 1, versets 7 à 11, nous avons des cavaliers qui vont parcourir, qui vont patrouiller le monde pour Dieu. Et un peu plus loin, au chapitre 6, toujours Zacharie 6, les versets 1 à 8, nous avons quatre chars avec les mêmes couleurs que ici en Apocalypse 6, quatre chars qui partent aux quatre coins de la terre pour faire et imposer la volonté de Dieu sur ses ennemis. Et donc, la connexion avec Zacharie suggère que les cavaliers ici en Apocalypse 6 partent pour apporter une punition sur le monde, ce monde qui est rebelle, ce monde qui s'est détourné de Dieu. En n'oubliant pas que l'Église est encore dans le monde et que l'Église, donc, peut être touchée par cette punition. Par exemple, le deuxième cavalier, le cavalier roux ou rouge, va amener les gens à s'égorger les uns les autres. Ce terme traduit ici par « égorger » est le même qui est décrit par exemple en 1 Jean 3, verset 12, pour parler de la mort d'Abel. Il a été mis à mort, il a été exécuté. Et en Apocalypse 5, les versets 6 et 9, il est traduit par l'agneau qui a été immolé. Il a été mis à mort, c'est le même terme ici. Et les jugements donc, que cette vision décrive ici, dans les 8 premiers versets du chapitre 6 de l'Apocalypse, suivent ce texte que nous avons lu il y a quelques instants, en Ézéchiel 14, les versets 12 à 23. Ces jugements sont exercés non seulement pour punir les idolâtres, mais aussi pour purifier la foi du peuple de Dieu. Un commentateur le résume en disant « Chacun des quatre premiers sceaux représente des conflits, des tribulations qui sont dirigées vers le peuple de Dieu pour le tester, mais aussi pour séparer les faux disciples des vrais. » Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, rappelez-vous, a bien dit qu'il n'est pas venu apporter la paix à ce monde, mais l'épée, Matthieu 4, 34. Mais il a aussi promis que ceux qui perdraient leur vie pour lui la retrouverez, Matthieu 10, verset 39. Et même si la persécution de l'Église n'est pas ici au premier plan des malheurs qui sont décrits, elle est sans doute liée aux tribulations. Troisième mot sur la feuille. Elle est liée aux tribulations apportées par ces quatre cavaliers. Mais il y a aussi un lien, au moins sur un plan général, avec les calamités que Jésus va décrire, et Jésus décrit en Matthieu 24, et les passages parallèles sur ce qu'on appelle le discours du mont des Oliviers. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé, rappelez-vous, de séduction, il a parlé de guerre, de famine, de persécution. Et il dit en Matthieu 24, versets 6 et 8, il dit « Ce ne sera pas encore la fin. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Et donc, cela nous permet de définir la période des calamités qui sont décrites ici. Certains pensent qu'en ouvrant les sceaux de ce livre, Jésus inaugure les derniers jours avant son retour. Mais, comme nous l'avons déjà dit, comme nous allons encore le voir, c'est tout le contraire. C'est ce qui est décrit là. Ces malheurs arrivent tout au long de l'ère de l'Église, de l'histoire, entre l'ascension et la glorification du Seigneur Jésus-Christ et son retour. Nous avons vu au chapitre 5 que le Seigneur Jésus-Christ s'est approché du trône pour prendre ce livre. Et cela correspond avec son ascension. Il a terminé l'œuvre qu'il est venu faire, il a sauvé son peuple, il s'est présenté devant son Père. Maintenant, il prend ce livre et il va exécuter, diriger toutes choses. Cela rejoint ce qu'il a dit en Matthieu 28, verset 18. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir. C'est maintenant lui qui dirige toutes choses. Il dirige toutes choses. Il accomplit le dessein de Dieu son Père. Et c'est lui qui ouvre les sceaux du livre. Un commentateur le résume en disant « Les telles choses se sont déroulées au temps de l'Empire romain, au premier siècle, elle se déroule aujourd'hui et on peut s'attendre à ce qu'elle se déroule jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. » Ce que nous avons ici ne se limite pas à la période qui précède immédiatement le retour de Christ, mais cela décrit encore une fois toute la période entre l'ascension du Seigneur Jésus-Christ et son retour dans la gloire. Le point important de cette vision, encore une fois, est la souveraineté, quatrième mot sur la feuille, la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ, même sur les tribulations que connaît ce monde. Chaque cavalier est appelé par le chérubin. Lorsque le Seigneur Jésus ouvre le sceau, chaque cavalier est appelé par un chérubin. Et les cavaliers sont équipés et ils reçoivent des choses. Le cavalier blanc, par exemple, le cavalier sur un cheval blanc reçoit une couronne. Le cavalier sur un cheval roux reçoit le pouvoir d'enlever la paix. Il reçoit une grande épée. Ils reçoivent tous, à la fin, verset 8, le pouvoir sur un quart de la terre pour faire mourir les habitants. Le mal, et c'est ce qu'il faut souligner, le mal vient des cavaliers. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui cause les calamités sur la terre. Non, il n'est pas l'auteur du mal. Rappelez-vous des passages parallèles, par exemple, en Romains chapitre 1. Nous lisons par exemple que Dieu livra les hommes à l'impureté selon quoi ? Les convoitises de leur cœur. Il les livra à leur sens réprouvé. Ici, en Apocalypse 6, ce sont les cavaliers qui apportent le mal. Ce sont eux, mais ils ne font que ce qui leur est permis. Ils ne font que ce que le Seigneur Jésus-Christ leur donne l'autorisation de faire, selon le plan de Dieu, selon la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ. Ces malheurs que nous voyons décrits ici dans ce passage sont en fait le récit de l'histoire du monde, quand Jésus juge ce monde qui est rebelle. Le psalmiste, dans le psaume 2, verset 12, par exemple, nous a exhortés. Il dit « Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie. » Mais en même temps, ce passage va nous montrer que la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ va apporter le plus grand des réconforts au peuple de Dieu qui souffre. Même dans les moments les plus difficiles, le croyant sait ou doit se rappeler que c'est l'agneau qui est sur le trône. C'est l'agneau, celui qui a été immolé pour nous, pour sauver son peuple. C'est lui qui ouvre les seaux. Et c'est lui qui va amener la totalité de son peuple dans la gloire. Après ces mots d'introduction, on va passer maintenant au détail. Et deuxième point, donc, le premier sceau, le cavalier sur un cheval blanc, cinquième mot sur la feuille, qui partit en vainqueur et pour vaincre. Cavalier sur un cheval blanc. J'ai dit, nous avons vu que les chapitres 4 et 5 décrivent ce qui se passe dans le ciel. Et maintenant, au chapitre 6, nous allons commencer à voir les conséquences sur terre. Verset 2, « Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur. » Et pour vaincre, quelle est l'identité de ce cavalier? Il y a trois interprétations sérieuses qui méritent de passer quelques instants. Certains disent qu'il s'agit de Christ qui s'avance avec son évangile. D'autres vont dire qu'il s'agit de l'Antichrist qui s'avance avec violence dans ce monde. Et d'autres vont encore dire qu'il s'agit de différents conquérants qui apparaissent dans le cours de l'histoire. Ceux qui pensent qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ nous renvoient au chapitre 19. Et nous avons là effectivement la vision du Seigneur Jésus-Christ qui est sur un cheval blanc, à partir du verset 11. Celui qui montait, à partir du verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. » Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et nous verrons cela en arrivant au chapitre 19. Et donc, ces personnes nous disent, voilà, le blanc, c'est le symbole de la justice. Et puis, dans l'Apocalypse, mais aussi dans l'Évangile selon Jean, le Seigneur Jésus-Christ est décrit comme étant celui qui est vainqueur. Jean 16, 33, par exemple, « J'ai vaincu le monde ». Apocalypse 5, 5, « Il a vaincu pour ouvrir le livre ». Mais il y a des raisons pour remettre en cause cette interprétation. Tout d'abord, quand on lit ce passage, les quatre cavaliers apparaissent comme formant un groupe. Et ils sont sur le même pied d'égalité. Or, personne n'est égal à Christ. Et le but de ces cavaliers est d'apporter la tribulation. Ce n'est pas d'apporter le salut. Le premier cavalier reçoit une couronne, alors qu'en Apocalypse 19, verset 12, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ porte plusieurs diadèmes. Et même si la couleur blanche illustre la justice, la couleur blanche est aussi représentative d'un guerrier vainqueur. Par exemple, l'empereur romain qui avait remporté une victoire pouvait parader sur un cheval blanc. Et donc, c'est pour cela que beaucoup disent que cela ne représente pas Christ, mais l'Antichrist. Parce que même en Apocalypse 11, par exemple, 11, verset 7 et 13, verset 7, l'Antichrist est décrit comme vainqueur. Il a vaincu. Mais la meilleure interprétation, il me semble, c'est de voir dans ce cavalier celui qui apporte le malheur de la guerre. Sixième mot sur la feuille. Le malheur de la conquête militaire. Et cela est vrai pour les croyants du premier siècle, en Asie en particulier, auraient bien compris cela. L'arc, voilà, je vais vous montrer une petite carte, c'est un peu petit, mais je pense que vous reconnaissez la France, la Gaule, donc l'Empire romain, la Méditerranée qui est là. L'Asie, donc, où sont les sept églises, donc, d'accord, c'est la Turquie actuelle. Et à l'est se trouve ce qu'on appelle le royaume des Parthes. Et les Parthes étaient une menace constante pour l'Empire romain. Et l'armée parthe avait une tactique en particulier dont on parle encore aujourd'hui, c'est que ils avaient leurs soldats, leurs archers à cheval, et leur tactique était de simuler, de faire semblant de fuir devant l'armée, et puis ensuite de se retourner à 180 degrés et de décocher les flèches à l'armée qui les poursuivait, qui était donc surprise. Et un commentateur dit ceci, « L'arc est un symbole de violence. La couronne que le cavalier reçoit parle d'un règne en despote, et la couleur blanche de son cheval parle de conquête. Son départ en vainqueur et pour vaincre exprime son désir pour la puissance et la domination sur le monde. » Et le royaume des Parthes était en conflit avec l'Empire romain. Et quand on comprend, quand on interprète ce premier cheval, ce premier cavalier de cette manière, on peut comprendre ce premier saut comme étant le relâchement de seigneurs de guerre dans l'histoire. Les empereurs romains, l'empereur romain par exemple, avait proclamé la Pax Romana, la paix romaine, amenée par l'épée. Mais les Parthes, qui ont battu l'armée romaine en 62, c'est-à-dire un peu plus de 30 ans avant la rédaction du livre de l'Apocalypse, et donc les croyants en Asie pouvaient se rappeler de cela. Les Parthes, en étant victorieux sur l'armée romaine, disent d'une certaine manière que cette déclaration de Pax Romana, de paix romaine, était plutôt une affirmation fragile. Et les croyants du premier siècle pouvaient s'en rappeler. Et tout au long de l'histoire, le Seigneur Jésus-Christ va relâcher des hommes, des seigneurs de guerre. On peut penser à Attila le Hun, à Napoléon Bonaparte, à Adolf Hitler. Aujourd'hui, on pourrait même, par exemple, mettre Poutine avec la situation en Ukraine. Ces hommes qui apparaissent sur la scène de l'histoire pour détruire les affirmations de l'humanité. Cette humanité qui dit que l'on peut créer la paix sur Terre tout en étant en guerre contre Dieu, tout en méprisant le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ dit non. La paix, septième mot sur la feuille. La paix sur terre sans lui est une utopie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas réalisable. Et il permet à ce que les hommes viennent sur la scène de l'histoire pour rappeler, pour envoyer ce message à l'humanité. Qu'il est impossible d'avoir la paix sur terre en dehors de Christ. Un commentateur le résume, la paix romaine promettait la prospérité, mais la réalité était toute différente. Et depuis ce temps, les conquêtes, les bains de sang, les famines, la mort ont frappé l'humanité pendant toute la période de l'Église. Le premier cavalier parle, illustre les seigneurs de guerre, ceux qui veulent conquérir le monde. Cela nous amène au point suivant, troisième point. Les trois autres cavaliers, les cavaliers 2, 3 et 4, décrivent les ravages qui accompagnent la guerre, qui accompagnent la conquête militaire tout au long de l'histoire de l'humanité. Le deuxième cavalier qui apparaît sur un cheval roux, huitième mot sur la feuille, certaines traductions au rouge, il apporte le carnage, versets 3 et 4. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns des autres. Et une grande épée lui fut donnée. Et la couleur du cheval va bien avec le thème de bain de sang. Il reçoit une grande épée, il reçoit le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Si le premier cheval, comme nous voulons l'interpréter, parle de la conquête militaire, le second cheval parle de la guerre civile, des bains de sang dans une société. Remarquez encore une fois que le Seigneur Jésus-Christ ne cause pas la violence. Il retire le frein pour permettre à cette violence de se manifester. Et la raison pour cela, nous le savons, c'est la haine, neuvième mot sur la feuille, la haine qui existe dans le cœur de l'homme pécheur. Par exemple, l'apôtre Jacques va le souligner au chapitre 4 et au verset 1 et 2. Il dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? » Et donc c'est une tragédie, on pourrait dire ironique, qu'une société qui s'est détournée de Dieu, qui ne regarde pas au Seigneur Jésus-Christ, soit surprise devant la violence de ses membres. Sachant que le seul frein au péché est la grâce de Dieu. Notre société même, aujourd'hui, a relâché des influences les plus meurtrières. On voit cela dans le divertissement qui fait l'apologie de la violence. On voit cela dans les libertés qui détruisent les familles. Et quand ces forces mauvaises provoquent la débâcle, provoquent le bain de sang dans les rues, dans nos écoles, dans les familles, nos responsables politiques sont perplexes. Ils ne savent pas que répondre, ils ne savent pas que dire devant la situation. Ce passage en Apocalypse 6, ce cheval roux, nous rappelle qu'il est là pour apporter le jugement. Il permet l'expression des passions violentes, de haine, qui sont dans nos cœurs pécheurs. Et il permet l'expression de cette haine dans une société rebelle qui ne croit pas en Dieu. Et ce terme peut parler, ce terme traduit par ici « égorger », ou immolé, comme j'ai dit tout à l'heure, peut faire référence à la guerre civile, mais peut aussi impliquer la persécution de l'Église, la persécution des croyants. On va le retrouver dans le verset 9 du même chapitre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Cette épée est active, elle est encore active aujourd'hui, dans bien des pays où les croyants sont arrêtés, mis à mort à cause de leur foi. Le deuxième cavalier donc, le cavalier roux ou rouge, symbole ou qui amène la guerre civile et la persécution. Le troisième cavalier, il vient sur un cheval noir, dixième mot sur la feuille. Versets 5 et 6, il apporte la famine. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens, je regardais, voici paraît un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Et ces termes, ces mots parlent, illustrent un effondrement de l'économie, de manière à ce que personne puisse subvenir correctement aux besoins, même aux besoins essentiels. À l'époque, la province d'Asie, donc dans laquelle se trouvent les sept églises, cette province d'Asie était autonome en ce qui concerne l'huile d'olive et en ce qui concerne le vin. Il produisait suffisamment pour les besoins, mais cette province devait importer les céréales. Alors ça venait soit d'Égypte ou ailleurs. Et un commentateur a fait le calcul, il dit que les prix, ici, une mesure de blé pour un denier, ils reflètent une inflation entre 800 et 1600%. Une mesure de blé suffisait à nourrir une personne par jour. Un denier était le salaire pour une journée. Ça veut dire qu'un denier pouvait payer pour la nourriture pour une personne. Ça veut dire que l'ouvrier pouvait se nourrir avec son salaire, mais ne pouvait plus nourrir sa famille. Ou alors, il devait manger de l'orge, qui était moins nourrissante, réservée souvent au bétail, mais qui pouvait faire survivre les familles. Ce troisième cavalier apporte la privation, mais il n'apporte pas une famine totale. Au verset 6, nous lisons « Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Et ce cri pour préserver les olives et le vignoble indique que ce sont les pauvres qui sont affectés par cette privation. Les riches peuvent garder leur luxe. Et ce cri fait sans doute allusion à une famine qui a sévi dans cette région donc d'Asie, où sont les églises de l'Apocalypse, dans cette province d'Asie, une famine en l'an 92. Et pour essayer de contrer cette famine, l'empereur Domitien avait ordonné que les oliviers, les plantations d'oliviers et les vignobles soient détruits pour avoir du terrain, pour pouvoir cultiver les céréales et nourrir le peuple. Mais les propriétaires se sont levés contre l'empereur et devant l'ampleur de cette rébellion de ses propriétaires, de ses riches propriétaires, l'empereur a abandonné cette idée. Mais voilà le genre de situation qui est représentée ici. Des difficultés économiques qui produisent des conflits, 11e mot sur la feuille, des conflits entre les classes sociales. Et les chrétiens, les croyants, sont souvent ceux qui souffrent pendant les crises économiques, en particulier lorsque leur loyauté à Christ va créer un trouble entre eux et l'employeur ou les autorités civiles. Rappelez-vous, par exemple, à l'église de Pergame, le Seigneur avait repris cette église parce que certains y enseignaient qu'il fallait manger de la viande sacrifiée aux idoles et se livrer à la débauche. C'est au chapitre 2, verset 14. C'était des choses qui étaient sans doute nécessaires ou que le monde jugeait nécessaires pour entrer et faire partie d'une confrérie. Et ceux qui refusaient de le faire, ils n'avaient pas accès aux postes qui étaient les mieux payés. Et plus tard, au chapitre 13, nous allons voir que l'Apocalypse parle de la marque de la bête, qui illustre, qui représente l'adoration des idoles, sans laquelle, il nous est dit, personne ne peut acheter ni vendre. Et donc, les croyants, les chrétiens, sont souvent ceux qui souffrent et qui ne peuvent pas participer à la vie économique du peuple. Mais voilà le troisième cavalier qui apporte la privation et la division entre ceux qui sont pauvres et les plus riches. Et le quatrième sceau, le quatrième cavalier, s'avance sur un cheval dont la couleur est décrite comme étant verdâtre. Douzième mot sur la feuille. Certaines versions ont le mot pâle. C'est une couleur, on pourrait la décrire, si on peut la décrire comme étant une couleur maladive. C'est-à-dire, c'est un vert pâle, c'est un vert qui n'est pas très accueillant. Le terme en grec, c'est chloros. Alors, ça nous donne, bien sûr, chlorophylle, ça nous donne chlore. Mais c'est un vert, mais qui vient bien avec la mission de ce cavalier. Nous disons verset 7, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens, je regardais, voici paraît un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. C'est un quatrième cavalier qui représente la maladie, l'épidémie, et les victimes vont rapidement à la tombe. Et le verset 8 est un résumé de tout ce que Jean vient de voir. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Cette liste vient de ce passage d'Ézéchiel 14 que nous avons vu tout à l'heure. Une liste de jugements sur le peuple d'Israël. Ézéchiel parle des bêtes sauvages qui parcourent le pays comme étant un signe que la société s'était écroulée. Et donc on les retrouve ici en Apocalypse chapitre 6. L'allusion faite à Ézéchiel nous montre aussi que les jugements du Seigneur Jésus-Christ sur ce monde sont en réponse à l'adoration des idoles, à l'incrédulité de ce monde. Le Seigneur juge ce monde qui est incrédule, ce monde qui adore autre chose, qui adore des idoles. Mais ces jugements vont aussi affecter l'Église et les croyants. Mais encore une fois, ces quatre cavaliers souligne la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ qui ouvre les sceaux. Et aussi terribles soient-ils, ces malheurs arrivent pour la louange, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, les quatre êtres vivants qui appellent les cavaliers sont les quatre êtres vivants qui, au chapitre 5, ont chanté la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et ce sont eux qui appellent les cavaliers. Et ces malheurs que les cavaliers apportent sur la terre, ils les apportent tout au long de l'histoire de ce monde, jusqu'au retour du Christ, jusqu'à ce que son dessein soit accompli. Le commentateur résume cela en disant, « Christ a fait des forces mauvaises de ce monde ses propres agents pour exécuter son dessein de sanctification et de jugement. » pour l'avancement de son royaume. Et cela se voit en particulier dans le quatrième cavalier qui est appelé la mort et qui est suivi par le séjour des morts. Rappelez-vous ce que Jésus avait déclaré au chapitre 1er et au verset 18. Il a dit « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts ». Et ce cavalier, ce quatrième cavalier donc, est comme les autres. Il part sur l'ordre du Seigneur Jésus, mais il est aussi retenu, limité par le Seigneur Jésus-Christ pour, dans son œuvre, dans son action. Voilà donc les trois cavaliers. Et le quatrième point, le Seigneur Jésus-Christ est souverain. Treizième mot sur la feuille. Souverain dans le jugement, mais aussi souverain dans le salut. Les athées, et vous avez sans doute eu l'occasion d'en croiser, vont dire, mais comment un Dieu d'amour peut-il exister quand on voit tous les malheurs dans ce monde? Comment est-ce que vous pouvez parler d'un Dieu d'amour quand on voit tous les malheurs dans ce monde? Et le problème est pour l'incroyant. Il n'est pas pour nous. Le livre de l'Apocalypse n'est pas du tout gêné en parlant d'un Dieu qui est saint, d'un Dieu qui est plein d'amour, qui a envoyé son Fils. Son Fils est venu dans ce monde, il a été immolé pour sauver son peuple. Et ce Dieu saint est un Dieu d'amour, mais le livre de l'Apocalypse n'a pas honte de parler de cela, même en parlant de la souffrance humaine. Le livre de l'Apocalypse souligne sans gêne aucune la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ sur ces quatre cavaliers. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre cela? De deux manières. La première, c'est que le premier message que l'on doit retirer de ces quatre cavaliers, c'est que Dieu est résolument en colère. 14e mot sur la feuille. Il est déterminé, il est en colère contre le péché et la rébellion de l'homme. Il est en colère. Le commentateur le dit, les images que Jean nous décrit ne sont pas pour notre amusement. Ce ne sont pas des puzzles que pour faire travailler notre esprit. Ce sont des avertissements qui soulignent combien Dieu est sérieux au sujet du péché et qu'il va le juger de manière définitive au dernier jour. Ce ne sont pas des puzzles que l'on doit chercher qui sont là pour nous stimuler. Non, ce sont des avertissements. Certains pensent et certains disent aujourd'hui que le Seigneur Jésus n'est plus concerné par le péché parce qu'il est mort sur la croix, il a accompli le salut, voilà, son œuvre est terminée. Mais la mort du Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement la délivrance du péché, c'est aussi la condamnation du péché. En déversant sa colère sur son propre Fils parce qu'il portait les péchés de son peuple, le Père a montré sa détermination à punir le péché. Parce que Dieu a horreur du mal. Il a horreur du péché. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il est déterminé à punir le péché. Et donc, un monde qui rejette le Seigneur Jésus, qui se moque de son œuvre accomplie à la croix, ne devrait pas s'attendre à autre chose qu'un jugement de la part de Dieu. Et un commentateur a résumé cela en disant « L'histoire du monde est le jugement du monde. » Dieu juge, le Seigneur Jésus-Christ juge tout au long de l'histoire. Aujourd'hui, peu de personnes réalisent que Dieu juge le monde, 15e mot sur la feuille, au travers des calamités que nous pouvons connaître. Alors bien entendu, nous on ne peut pas dire qu'un événement particulier représente un jugement divin sur des personnes particulières. On ne peut pas dire, par exemple, que l'accident qui a impliqué les trois athlètes français est un jugement de Dieu sur eux. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a bien enseigné comment interpréter, comment réagir à cela, à ces événements. Rappelez-vous ce qu'il dit en Luc chapitre 13, les premiers versets. Quelques personnes se trouvaient là et racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?»« Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et voilà la leçon, voilà ce qu'il faut en retenir. Ce n'est pas à nous de dire, voilà, tel événement correspond à un jugement de Dieu sur telle personne. Non, Dieu juge le monde qui est un monde rebelle. Mais le message est, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et la vision de Jean montre aussi que la poursuite par ce monde d'un paradis sans Dieu est vouée à l'échec. Dieu ne permettra pas. Et tout au long de l'histoire, Dieu a détruit toutes les poursuites de l'homme, a créé une société dans l'harmonie, dans la paix. Il a détruit la tour de Babel, par exemple. Et tout au long de l'histoire, il va détruire ces utopies humaines. Les empereurs romains, par exemple, et les politiques d'aujourd'hui nous promettent la prospérité, nous promettent la paix. Et en même temps, ils méprisent Dieu. Ils se détournent du Seigneur Jésus-Christ. Ils oublient que le but de ce monde n'est pas le plaisir de l'homme dans le péché, mais c'est de vivre pour la gloire de Dieu, c'est de vivre dans la justice que nous donne le Seigneur Jésus-Christ. Paul va le dire autrement dans sa lettre aux Romains, Romains 1, 21. Il dit « Ayant connu Dieu, les hommes ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. » Il dit au verset 18 « C'est pourquoi la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Et de nos jours, on connaît les malheurs de ces quatre cavaliers. Malgré toutes les initiatives pour la paix, la société, le monde doit faire face au désir de certains de dominer sur le monde. On pense aux événements, par exemple, du 11 septembre et tout ce que cela a entraîné. Cela montre jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller. On voit les hommes politiques qui ne savent pas comment arrêter les conflits, l'Ukraine, la Syrie et ailleurs. Mais aucun ne va s'attaquer au problème de fond. Le problème de fond qui est le péché. 16e mot sur la feuille, le péché de l'homme et la colère de Dieu contre le péché. À la fin de la Première Guerre mondiale, on a décrit cette guerre comme étant la der des ders. Plus jamais. Plus jamais cette guerre. Plus jamais de guerre pareille. Et s'en est suivi une deuxième. Et le 20e siècle est sans doute devenu le siècle le plus meurtrier de l'histoire. On pourrait faire des commentaires similaires sur le cavalier roux qui relâche la violence dans la société. Lorsque des balles viennent détruire des vies dans nos rues, dans nos écoles, on va se plaindre contre les armes, contre le droit de porter des armes. Mais on ne va pas parler du problème du péché. Ce péché qui est dans le cœur de l'homme, on va refuser cet appel à la repentance, à la foi en Christ. Quand la révolution sexuelle des années 60 et 70 a amené l'épidémie du sida dans les années 80 et 90, personne n'a parlé de repentance. Personne n'a parlé de revenir à Dieu. Quand on regarde la dette qui ne cesse de s'alourdir, personne ne va parler de cette folle poursuite du plaisir, un plaisir qui est éphémère au détriment des générations qui vont suivre. Non, le monde veut vivre pour son plaisir aujourd'hui. Et dans chaque type de cavalier, de chaque type de malheur représenté par les cavaliers, le jugement est le résultat logique du péché. Ce jugement appelle ce monde à se repentir du péché, à chercher le salut qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Si vous ne vous repentez, vous aussi, vous périrez. Mais le deuxième message à retirer, et plus particulièrement pour les croyants, si certains ont du mal avec la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ sur toute chose, y compris sur ces cavaliers qui viennent et apporter le malheur, pensons à l'opposé. Ce serait pire, ce serait terrible de croire, de penser que personne ne contrôle, que tout cela n'est qu'un hasard, que tout cela est par accident. Ce serait terrible de penser cela, que tout cela, ce serait terrible si c'était vrai, que tout cela n'est que le fruit du hasard. La vision de Jean, au contraire, nous enseigne que tout cela est sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ qui est souverain, qui accomplit le plan de Dieu, son Père, et qu'il va l'accomplir jusqu'à son retour dans la gloire. Et nous pouvons, nous, être réconfortés par le fait que sous le contrôle de Christ, dans sa souveraineté, ces malheurs qui viennent sur la terre ne nous détruiront pas. 17e mot sur la feuille. Ceux qui se confient dans le Seigneur Jésus-Christ pourront connaître des épreuves, mais ils seront sauvés avec certitude. Ils ne seront pas détruits. En Actes 14, verset 22, Paul prêcha que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais la vision du Seigneur qui ouvre les sceaux est une preuve que son peuple sera sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ règne, il contrôle les épreuves. Et un commentateur résume cela en disant « Bien que les jugements terribles soient relâchés contre l'humanité, le peuple de Dieu n'a aucune raison d'être perplexe. Il sera gardé, quelle que soit la tribulation. Il sera gardé. » Christ est souverain. Il est souverain sur l'histoire. Il est souverain sur toute chose, même si ce n'est pas lui qui cause les malheurs. Il dirige, il contrôle et il leur permet d'agir jusqu'à un certain point. Nous avons dit tout à l'heure, en citant l'apôtre Paul en Romains, que la colère de Dieu se manifeste du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. On pourrait conclure là. Mais pour Paul, ce n'est que le début de la présentation de l'Évangile. Il va développer cela. Chapitre 3, verset 23, il va dire que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il va continuer, et comme Jean nous va continuer dans le livre de l'Apocalypse, pour révéler la solution que Dieu a apporté au problème. Ils sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus-Christ. Romains 3, 24. Quand nous considérons la colère de Dieu contre le péché de l'homme, quand nous considérons cette colère qui est relâchée sur le monde, nous ne devons jamais oublier l'invitation de l'Évangile. Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ règne sur l'histoire. Il juge le monde. Mais aujourd'hui reste encore un jour de grâce. Et l'invitation, dernier mot sur la feuille, l'invitation au salut est encore lancée aujourd'hui. À moins que vous ne vous repentiez, vous périrez également. Mais celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Que Dieu nous aide à comprendre cela et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.